Bonjour à vous, cher Emmanuel, et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui vous emmène chaque semaine à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. La philosophie est-elle une vocation? Comment viennent les idées? Comment se fabrique un concept? Et quel rôle le philosophe doit-il jouer dans la cité? Voici aujourd'hui le portrait en acte et par lui-même du philosophe Marc Alizart. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci.
Je vous ai présenté comme philosophe. Comment vous présentez-vous?
Ah, ça a été une question difficile déjà.
C'est la première alors.
J'ai mis du temps, mais je dirais que maintenant je suis philosophe.
Alors qu'est-ce qui s'est passé entre avant et maintenant pour maintenant vous définir comme philosophe?
J'ai toujours su que j'avais la vocation de la philosophie, je veux dire, à partir de l'âge de 15 ans, 16 ans. Mais j'ai pas su tout de suite si j'avais quelque chose à dire, enfin ce qui pouvait me permettre de... Enfin, il y avait un monde entre vouloir être philosophe et puis faire de la philosophie, écrire de la philosophie, avoir l'impression qu'on a quelque chose à dire en philosophie. Et puis, en plus, j'ai eu quelques accidents de parcours qui font que... On m'a quand même notifié assez sèchement que...
Le parcours universitaire.
Oui, que j'étais que fallait peut-être que je fasse autre chose.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous n'avez pas fait?
Ben moi, je voulais être prof de philo. Je voulais, c'était mon ambition d'enfant, d'adolescent, voilà, de jeune adulte. Donc, j'ai passé les concours que j'ai brillamment échoué à réussir. Et donc, j'ai fait autre chose. Enfin, j'ai gagné ma vie autrement. Donc, pendant longtemps, de fait, j'ai pas été philosophe. Et puis, c'est seulement, récemment, depuis il y a quelques années, 4-5 ans, que j'ai senti que j'avais peut-être quand même quelque chose à dire. Et quand j'ai senti effectivement ça venir, je me suis dit, bon, ben, alors c'est vrai.
Nous allons passer 50 minutes ensemble, Marc Alizart, pour comprendre votre pratique de la philosophie en remontant jusqu'à votre rencontre avec la philosophie, en questionnant vos influences philosophiques et extra-philosophiques, en pénétrant dans votre atelier de fabricant de concepts, en réfléchissant au rôle politique du philosophe. Mais d'abord, s'il fallait identifier une chose, un concept, un thème qui vous est cher et que l'on retrouverait dans votre travail de philosophe, eh bien on aurait beaucoup de mal. Parce que dans les quatre ouvrages que vous avez publiés, quatre ouvrages d'auteurs, le premier s'appelle « Pop théologie, les questions du protestantisme », le suivant « Informatique céleste », on parle d'informatique, ensuite « Chien », le titre parle de lui-même, et le dernier, qui vient de paraître, « Crypto-communisme ou les questions du bitcoin ». Quel est le point commun entre le protestantisme, l'informatique, les chiens et le bitcoin, Marc Alizart?
Alors, il se trouve en fait qu'il y a de l'informatique dans les quatre, c'est pas évident au premier abord. Je pense que c'est ça ma question, c'est l'informatique, c'est la question de l'information. Mais elle est venue elle-même lentement, elle est venue au cours d'écriture du premier, pop théologique, effectivement, elle n'avait pas forcément de rapport. La question première qui m'a mis en mouvement, c'est la question de la modernité, ou de ce qu'on appelle la crise de la modernité, qui est, comment on pense cette impasse de la modernité, du contemporain, de la crise écologique, de la crise politique, de la crise même des sciences d'ailleurs, qui fait que depuis le 19e siècle, au fond, beaucoup d'intellectuels se sont mobilisés quoi, pour résoudre, pour autant qu'on puisse résoudre ce genre de problème. Et puis ensuite, c'est les chevaux, le fil que j'ai tiré m'a amené à penser que l'informatique était peut-être la réponse, une réponse inattendue à cette multiple crise. Et c'est en fait le deuxième livre, Informatique céleste, où vraiment quelque chose se déclenche en moi et où je me dis, voilà, j'ai un sujet, je tiens quelque chose, c'est un vaste sujet.
Parce qu'informatique et Hegel aussi, une manière de relire Hegel à travers l'informatique et inversement de considérer Hegel comme le précurseur de l'informatique.
Hegel, ça fait 20 ans ou 25 ans que je le traîne et que j'essaye de comprendre ce que ça raconte, et c'est en écrivant Informatique céleste que je comprends. Alors voilà, ça aussi c'est mon moment Eureka en philosophie, bon c'est vachement important pour moi, c'était comme une porte qui s'ouvrait sur un endroit incroyable quoi, que j'avais rêvé. Et oui, l'informatique, alors j'étais pas préparé en fait. L'autre point commun de tous ces livres, c'est que j'étais pas du tout préparé à les écrire. C'est-à-dire que je suis pas protestant, j'ai passé 10 ans de ma vie à étudier le protestantisme. Je suis pas informaticien et j'ai pas de compétences, donc il a fallu que je rattrape le retard. J'avais pas de chien, j'en ai eu un, il est mort. Bon, je me retrouve dans un deuil incroyable à me dire mais comment je sors de ce deuil, et la seule solution que je trouve c'est d'écrire, et d'écrire une sorte J'avais même pas l'intention de le publier, à vrai dire. Enfin, c'était une nécessité. Et en écrivant ce livre, je découvre un nombre de trucs absolument incroyables que j'avais jamais imaginé, qui m'emmènent encore sur un autre territoire. Et puis ensuite, bon, bah, crypto-communisme, c'est bon, ça, c'est la suite, disons, de tous les problèmes qui se sont ouverts et que j'ai voulu, que j'explore, quoi, finalement.
Alors, on va revenir précisément sur votre travail. D'abord, si on remonte dans le temps à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, vous avez parlé de vocation. Il y a un élément déclencheur quand même qui confirme peut-être cette vocation, c'est cette voix.
Il est très probable que nous soyons la seule civilisation à plusieurs centaines d'années-lumière d'ici. L'alternative, c'est que les civilisations ne durent pas très longtemps, ou alors se détruisent elles-mêmes.
Que venons-nous d'écouter, Marc Alisa ?
C'est Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est ma première, encore en le réécoutant, c'est la première fois que je réentends cette voix incroyable, j'ai des frissons. C'est ma première émotion vraiment philosophique. Je crois que j'ai 13 ou 14 ans quand sort Une brève histoire du temps et qu'on fait la connaissance de Stephen Hawking mondialement et qu'on entend cette voix qui... Alors, le mot vocation, il est incroyable, ça veut dire l'appel, la vocation, vocare. Et c'est la voix de l'appel. Ça, c'est la voix de l'appel. C'est le son de l'appel. C'est-à-dire que si on était appelé, c'est peut-être cette voix qu'on entendrait, qui est une voix à la fois sépulcrale, une voix et en même temps du futur, une voix qui n'est pas humaine.
C'est ça qu'il faut peut-être dire quand même. Stephen Hawking, donc né en 42, l'an dernier, un grand physicien qui a beaucoup travaillé pour vulgariser la science, qui a fait énormément de travaux qui ont été accessibles à toute une génération. Ne pouvait pas parler.
C'est ça. La voix qu'on a entendue, c'est très gravement handicapé. Il y a un très joli film d'ailleurs sur sa vie que je recommande aux gens qui veulent découvrir Stephen Hawking. Il était en très bonne santé. C'était un grand physicien. Et puis il a découvert sa maladie, qui est une maladie dégénérative. Donc ça est de mal en pis au fur et à mesure du temps. Et puis à un moment, il perd la parole. Et donc cette parole est remplacée par une interface électronique, un écran qui commande avec sa pupille et qui lui permet d'écrire des livres et de faire des conférences. Au prix évidemment d'une souffrance importante. Et je me souviens, moi, de l'émotion, alors peut-être double, à la fois effectivement de cette voix qui est saisissante, et puis de ce qu'il dit, qui évidemment, il avait publié Une brève histoire du temps, donc moi j'ai 13 ou 14 ans, et puis j'entends que le temps a une histoire. Il y a un temps du temps, quoi. Il y a un commencement du monde. La théorie du Big Bang est relativement récente, en vérité, en physique, en astrophysique. Einstein n'était pas un partisan du Big Bang particulièrement. Stephen Hawking a beaucoup contribué à fonder cette théorie, qui est d'ailleurs aujourd'hui un peu remise en question. Mais enfin, moi je suis complètement saisi. C'est des questions proprement philosophiques. Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que l'origine du monde? À la même époque, je crois qu'il y a Retour vers le futur qui passe. Alors, je lis des bouquins. C'est mon premier bouquin, je crois que c'était La relativité d'Einstein, que sais-je. J'ai rien compris, évidemment, mais il y avait des images extraordinaires chez Einstein. Il y a l'image des jumeaux du paradoxe de Langevin, avec ce jumeau qui part, qui est l'autre qui reste sur Terre. Il y en a un qui va à la vitesse de la lumière, puis il revient, il est plus vieux, l'autre est plus jeune. Moins de temps s'est passé. Bon, les horloges sont synchronisées.
Donc, c'est la science qui vous intéresse autant que la philosophie à ce moment.
À l'époque, moi, je veux faire de l'astrophysique. Je veux être Stephen Hawking. Enfin, ça me fait rêver, quoi, cette image du savant qui découvre les secrets de l'univers. Ah oui, non, ça, c'est incroyable.
Mais vous entendez qu'après avoir présenté votre travail avec pour centre l'informatique, vous décrivez la première voix qui vous a donné envie de faire de la philosophie.
Ouais,
voix informatique.
Ouais, j'y avais pas pensé, mais. Effectivement, c'était là depuis toujours alors.
À l'origine de la vocation, c'est comme ça que vous l'avez présenté. Est-ce qu'à ce moment-là, vous décidez de, après avoir écouté Stephen Hawking et lu ses ouvrages, vous décidez de faire de la philosophie ? Ou est-ce que ça vient plus tard ?
Je fais de la physique, j'en fais tant qu'on peut en faire à 18-19 ans, mais effectivement, assez vite, la question de savoir si je vais trouver les réponses que je cherche sont dans la physique ou dans la philosophie se pose à moi. Et je bifurque et je finis par choisir la philosophie. Je pense que je suis animé par l'idée que les grandes questions, comme on dit, les questions sur l'origine du monde, enfin sur... Peut-être aussi sur tout ce que ça implique, le sens de la vie, notre position dans l'univers, bref, ont une réponse qui ne peut pas être scientifique. Voilà, ce sont des questions métaphysiques au sens propre.
Et donc vous voulez être prof de philo, vous allez à l'université, vous passez les concours et vous bifurquez, vous travaillez pour le centre Georges Pompidou, auprès d'artistes notamment, vous devenez directeur adjoint du Palais de Tokyo, vous travaillez dans un cabinet ministériel auprès du ministre de la Culture de l'époque, qui a un message pour vous. Marc Elizard.
La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette facette de Marc Elizard, philosophe, se nourrit certainement des autres facettes que j'ai pu partager, c'est-à-dire cette insatiable curiosité intellectuelle, cette capacité de travail considérable qu'il a. Je pense que le philosophe qu'il est et dont je ne soupçonnais pas vraiment l'existence, a dû s'enrichir beaucoup des autres facettes de son talent qu'il m'avait permis de partager.
Et il a juste tenu à rajouter un détail, Marc Elizard.
Au début, ce qui me gênait, c'est qu'il avait des chaussures jaunes. Et je lui en faisais toujours le reproche. Et finalement, je crois qu'il les a gardées jusqu'au bout.
C'est vrai ça, Marc Elizard, vos chaussures jaunes au cabinet ministériel
auprès... Non, je les ai changées. Non, je les ai changées, j'aurais parlé. Non,
auprès de Frédéric Mitterrand.
Ouais, je suis très ému d'entendre la voix de Frédéric Mitterrand. J'avais beaucoup d'admiration pour le Frédéric Mitterrand écrivain. J'avais lu Lettres d'amour en Somalie et j'avais vu le film qui était, je trouve, une œuvre absolument bouleversante. C'est l'histoire d'un homme qui cherche la consolation d'une rupture amoureuse en partant en Somalie, en se disant que au contact de la pauvreté et de la misère, il ira mieux et qui ne va pas mieux. Et j'étais extrêmement touché quand on m'a appelé à venir le rejoindre pour travailler en l'occurrence sur le Palais de Tokyo, qui était mon grand sujet de l'époque. Je m'étais donné corps et âme à l'art contemporain. Parce que d'ailleurs, j'y avais trouvé une manière d'exercer la philosophie en contrebande. L'art contemporain, c'est une sorte de hiéroglyphe, au fond. Ces objets qui sont pas beaux, qui ne recherchent pas à l'être, alors qu'on devrait s'attendre, on s'attend dans un musée à trouver des choses belles, enfin, qui répondent à un certain canon, à une certaine esthétique qu'on a appris à l'école. Et puis cette grande rupture, Marcel Duchamp, un urinoir, un porte-bouteille, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? À l'époque où je me suis intéressé à l'art contemporain, il y avait d'abord j'y suis arrivé à cause du Centre Pompidou, hein, parce que vous l'avez dit, comme je voulais travailler quand même dans le domaine du savoir, des idées, j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer Marianne Alphand qui dirigeait les activités de parole du Centre Pompidou et qui m'a proposé de présenter des émissions, des artistes, des intellectuels sur le plateau du Centre Pompidou. Donc c'était un moment de ma vie extraordinaire. J'ai fait des rencontres incroyables. Et puis j'étais au contact de l'art moderne et contemporain à travers cette expérience-là. Et j'ai trouvé dans l'art contemporain donc un relais. Il y avait une crise de l'art contemporain. Il y avait un vrai sujet. Est-ce que c'était légitime? Il y avait des hommes politiques qui disaient qu'ils voulaient pas financer l'art contemporain sur des ronds-points. Enfin, il y avait une grande bataille qui engageait corps et âme les jeunes gens de l'époque, sur d'Hernani des années 90. Et puis les sciences humaines étaient quand même pas très bien portantes, en tout cas celles qu'on avait connues, l'époque de Foucault et compagnie était un petit peu passée. Mais elles vivaient dans l'art contemporain. Dans l'art contemporain, il y avait une productivité des éditeurs et des intellectuels, justement autour du déchiffrement de ce hiéroglyphe, qui était fascinant. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'intellectuels qui tournaient autour de l'art contemporain, beaucoup de jeunes philosophes, que j'ai eu l'occasion ensuite d'ailleurs de réunir dans un ouvrage qui s'appelait « Fraîche théorie ». Gens comme Élie Düring, Patrice Maniglier, Laurent Jean-Pierre, Christophe Kim, Bastien Gallet, enfin il y en avait un certain nombre, et on était tous rassemblés par cette question de l'art contemporain. Donc ça a été vraiment un moment très très important, et c'est comme ça en fait que je me retrouve effectivement donc au Palais de Tokyo, et puis du Palais de Tokyo au cabinet pour m'occuper du destin des arts plastiques en général, et puis du design, et puis de la mode, et puis des métiers d'art, enfin comme dans un cabinet.
Oui, et puis après vous travaillez dans le privé, non?
Et ensuite, à la sortie du cabinet, comme j'ai rien prévu en sortie de cabinet, j'apprends qu'on recherche quelqu'un, on vient me demander si je veux m'occuper de mécénat chez LVMH pour la mode, pour aider les jeunes créateurs. Je dis bon, pourquoi pas, enfin je vais continuer à gagner ma vie d'abord et puis travailler dans la création. Et puis je vais apprendre aussi, Frédéric Mitterrand a raison, moi, le fil conducteur de peut-être alors un autre fil conducteur de ce que j'ai écrit et de ce que j'ai vécu, c'est une sorte de curiosité. Moi, j'adore apprendre. C'est comme des voyages, en fait. On découvre des mondes, des univers, des gens, des métiers. Rétrospectivement, je trouve que bon, c'est pas avoir fait ce que je voulais a quand même été vachement enrichissant, quoi. C'est-à-dire que j'ai découvert une pluralité d'existences, de discours, de mondes sans lesquels peut-être j'aurais écrit très différemment ou peut-être d'ailleurs même jamais écrit.
Parce que vous avez commencé à écrire alors que vous travailliez chez LVMH. C'est ça.
Laurent de Sutter lance une collection au PUF. Il avait participé à l'aventure Fraîche Théorie et il me dit, bah écoute, si tu as quelque chose en tête à écrire, moi je serais heureux de pouvoir t'accueillir dans la collection. Et à l'époque, moi je travaille depuis 10 ans sur un livre que j'arrive pas à écrire. Et je lui explique toutes les raisons pour lesquelles ce que devrait être Pop Théologie. Mmh. Et puis à la fin de la conversation qui dure une heure, où j'ai fait que parler de Pop Théologie, il me dit, ben voilà, mais il a écrit ton livre. Mmh. Donc il m'a dit, ben voilà, tu rentres chez toi, tu l'écris, et je l'ai fait. Et puis voilà, ça a commencé comme ça.
Ça a commencé parce que vous avez fait le choix ensuite d'arrêter de travailler, si j'ose dire, pour vous consacrer à la rédaction de vos ouvrages de philosophie.
Ben oui, oui, après, quand j'ai terminé Pop Théologie, j'ai vu qu'il y avait Informatique Céleste derrière. Informatique Céleste derrière, c'était une porte ouverte sur quelque chose de neuf. C'était le sentiment d'avoir trouvé une voie. Et puis, par honnêteté, enfin, vis-à-vis d'abord de mon employeur, et puis par souci de vérité, de sincérité vis-à-vis de moi-même aussi, je me suis dit, bon, ben maintenant, ça coïncide avec mes 40 ans. J'ai dit, bon, t'as travaillé 20 ans dans tous ces domaines-là, c'était super, mais tu sais qu'au fond de toi, ce qui t'intéresse, c'est la philosophie. Alors, tu prends ton courage à deux mains, tu signes la lettre pour partir. C'était quand même un pincement. Et puis tu y vas, quoi. T'as des choses à faire. Et tu verras plus tard. Et puis voilà, bon, il se trouve qu'effectivement, ensuite, il y a eu d'autres livres qui se sont appelés les uns les autres et que voilà, c'est une décision qui était fondatrice et importante dans ma vie.
Et sans doute un peu vertigineuse, comme ce qu'on peut trouver dans votre tête si on s'approche, alors votre cerveau, on va y entrer encore un peu plus précisément, si on s'approche de votre cœur et de votre tête, on entend des choses qui ne sont pas forcément philosophiques et qui peuvent ressembler à ça. Ce hard rock au clavecin, c'est sur France Culture que vous l'écoutez, Les Chemins de la Philosophie. Bienvenue sur Les Chemins du Vendredi pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe, aujourd'hui en compagnie du philosophe Marc Alizard. C'est incroyable ce que nous sommes en train d'écouter, Marc Alizard.
Ah, c'est incroyable.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un morceau de Pancras Royer qui s'appelle Vertigo, qui fait partie des derniers morceaux de clavecin composés. C'est parce que le clavecin va être remplacé par le piano. Hein, c'est le moment de la mort du clavecin, mais une mort sublime, fin 18e. Au moment de la Révolution française, d'ailleurs. Et c'est des choses que j'ai beaucoup écoutées. Ouais.
Quand vous écoutez ça, qu'est-ce que vous vous dites?
Ça m'évoque la manière... un peu ce qui se passe dans ma tête quand j'ai 20 ans, quoi, quand je suis face à toutes ces questions philosophiques vertigineuses, justement. C'est-à-dire qu'on parle souvent on dit que la philosophie, c'est la... Enfin, étymologiquement, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse, quoi. Et moi, l'amour, c'est de la rage, quoi. C'est-à-dire, c'est la rage de penser. J'ai cet instrument incroyable qui est la pensée, qui est d'une finesse comme le clavecin, magnifique, fragile, subtil. Et puis moi, je tape comme un sourd. Alors, et moi, j'adore ce morceau parce que c'est insensé ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui prend? Il y a la marche des Scythes qui est très, très, très beau aussi, qui est là un vertige dans le sens vraiment un tourbillon où on tombe. Là, c'est quelque chose de plus enragé, mais j'aime bien, ouais.
La philosophie n'est pas un ustensile. Quand on voit un ustensile biscornu, comme dans les tableaux surréalistes, une fourchette, ça sert à manger, un couteau, ça sert à couper, etc., une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir?
Comment vous répondez à Jean Kelevitch, Marc Alizart? À quoi ça sert, la philosophie?
Ah non, mais alors, je suis complètement d'accord. Et je pense que le problème que j'ai rencontré dans ma vie, dans ma première vie philosophique et non philosophique, c'est d'avoir considéré que la philosophie est un ustensile. Ah, je reconnais complètement je suis fasciné par la coïncidence de ce que je pensais en parlant de rage de pensée, quoi. C'est-à-dire que moi, à cette époque-là, je veux des réponses. J'ai des questions, donc j'estime que je suis en droit d'avoir des réponses. Donc, surtout si j'achète des livres de philo, donc je vais en librairie, j'achète des livres et dedans, je veux des réponses. Donc, quelle est l'origine du monde? Dieu existe-t-il? Quel est le sens de la vie? Et je pense que la philosophie est un instrument qui doit nous servir à ouvrir des boîtes. Et évidemment, évidemment, j'apprends assez vite que la philosophie, c'est la solution dans le problème, que le problème est mal posé, que c'est ça, faire de la philosophie, c'est tourner autour des problèmes et de s'apercevoir que les problèmes, justement, appellent pas de réponse, ou en tout cas pas celle qu'on pensait être. Mais il y a quelque chose en moi qui résiste à ça. Je trouve qu'il y a une défaite de la pensée, en fait. Je comprends, mais j'arrive pas à comprendre. Et je me révolte, en fait, contre cette idée le point culminant est ce qu'on pourrait appeler le criticisme kantien, ou ses conséquences, en tout cas, jusqu'à nous. C'est-à-dire l'idée qu'il faut abolir le savoir pour faire une place à la croyance, que, à la fin d'un cours de philo, un peu tout le monde a raison et tout le monde a tort. Évidemment, c'est pas ce qui se passe, mais moi, c'est le sentiment que j'ai, jeune, enfin enfant, adolescent, que de pas trouver, et en fait, quand je parle de déclic philosophique, je pense qu'à un moment j'ai compris ce que c'était faire la philo, c'était vraiment effectivement ne pas se servir la philo comme un instrument. Si on arrive à ce moment-là à comprendre qu'effectivement la solution est dans le problème, et dans la manière dont le problème est tourné, c'est ce que Deleuze qui dit ça, hein, qu'il faut aimer les problèmes, enfin que les problèmes sont plus importants. Créer des problèmes, c'est ça l'activité du philosophe. Et pour reprendre l'idée de l'amour de la sagesse, je crois que c'est le mot amour qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous n'allez pas vers l'amour, si vous ne permettez pas aux choses d'émerger, vous les trouvez jamais, quoi. Il y a ça chez Kafka, enfin le personnage de Kafka qui essaye toujours d'entrer dans le château et qui peut pas parce que la porte est fermée parce qu'il cherche à entrer. Bon, c'est des vieux paradoxes de la philosophie, mais c'est très juste, quoi. Moi, j'ai vraiment vécu ça. Donc,
on peut proposer une définition négative de la philosophie, ça ne sert pas à quelque chose. Est-ce qu'on peut en proposer une définition positive? Est-ce que ça sert à quelque chose de définir la philosophie, déjà?
Non, mais je crois que la philosophie sert à quelque chose, en fait.
Mais donc à quoi ?
C'est effectivement une manière de réfléchir au problème, mais in fine, c'est la découverte qu'il y a une effectivité des problèmes, il y a une effectivité de la pensée. La pensée, si on la laisse être elle-même, va développer sa propre raison d'être et nous entraîner, nous emmener. Être philosophe, je pense, c'est comprendre que la philosophie, que penser n'est pas une activité personnelle. N'est pas une activité subjective, n'est pas une activité même humaine d'une certaine manière. C'est ça la thèse d'informatique céleste en fait. C'est la thèse, je pense, profondément de Hegel face à Kant, face à l'irrésolution kantienne des antinomies. La position de Hegel, c'est de dire que dans l'a priori, dans la mécanique de la pensée, en fait, il y a de l'être qui se manifeste. Ma grande découverte, ça a été de comprendre que la partition entre philosophe et non-philosophe n'était pas juste. Était pas... On devient philosophe quand on comprend que ça n'existe pas, la philosophie. La philosophie s'occupe de nous, si vous voulez. On ne s'occupe pas de philosophie. C'est la philosophie qui nous pense. Enfin, on est pensé. Je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que l'univers pense et qu'on est à l'intérieur. Quand on a conscience de nous-mêmes, c'est l'univers qui a conscience de lui en nous. Donc en fait, on recueille une pensée qui est déjà là, qui se forme, et on la met en image éventuellement, mais elle nous préexiste. Je pense que ce décentrement-là, il est absolument fondamental.
Ça porte un nom ? C'est quoi, mysticisme, l'animisme, du vitalisme, s'il faut mettre un isme, comment vous qualifiez ça ?
Je crois que Giordano Bruno avait cette idée déjà au Moyen-Âge, je crois qu'on l'a appelé panpsychiste. Il y a le spiritualisme, hein, la grande tradition du spiritualisme français qui est au fond dans ces eaux-là. Pour moi, c'est de l'informationnalisme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'idéalisme allemand, je l'appellerais de l'informationnalisme allemand. C'est-à-dire que c'est l'idée, par exemple, que votre corps contient de l'ADN et que l'ADN est un programme, donc du langage. Ça pourrait s'appeler du structuralisme, d'ailleurs. Un structuralisme cosmique, un structuralisme élargi à l'univers. Il y a des signes. Il y a des signes et les signes sont la matière du monde.
Bon, puisque vous avez l'air d'avoir envie d'aller dans l'univers, allons-y, voyage dans l'espace.
À 19h précise, je suis descendu par l'escalier mécanique et je me suis installé dans la cabine.
Prêt, Kelvin ?
Je suis prêt.
Bon voyage.
Solaris. L'action se déroule dans l'univers. L'époque, un lointain futur. Le lieu, une étrange planète. Vous ferez connaissance avec Solaris, la planète mystérieuse. Le conflit latent entre l'homme et l'inconnu. La rencontre impitoyable de l'homme face à sa conscience, face à son passé. Une réalisation Andrei Tarkovsky, le célèbre metteur en scène d'Andrei Roublov.
A ti, kto ty takoy?
Vous auriez dit, Marc Alizard, que le seul film qui mérite d'être vu, c'est Solaris.
C'est mon film préféré, en tout cas.
Bon, et pourquoi ça ?
C'est un film immense. C'est un film immense. D'abord, parce que, évidemment, c'est un réalisateur immense. Et puis, pour moi, il se trouve que voilà, il est au cœur de... C'est très égoïste ce que je dis, mais il est au cœur de ce qui m'intéresse.
Ah, mais c'est à vous que je donne la parole, donc ne vous excusez pas de parler de vous.
Et voilà, Solaris, c'est l'histoire d'un... C'est l'histoire d'un équipage de Russes qui gravite autour d'une planète qui s'appelle Solaris, et Solaris parle. On sait de sources sûres, depuis l'avoir étudié, que Solaris essaie de communiquer avec nous sous la forme de volutes dans l'eau qui se forme. Mais, mystère, on n'arrive pas à comprendre ce que Solaris veut nous dire. Et ça, c'est une situation limite. C'est Stanislas Lev, le scénariste, enfin l'écrivain dont Solaris est inspiré, qui a eu cette idée absolument limite même de la pensée. Dans la pensée, chez Hegel par exemple, il y a l'idée que tout ce qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Dans l'informatique, il y a un principe qui s'appelle le principe d'universalité, qui est que tout ce qui est au monde est simulable et que tout ce qui est simulable a été écrit par un programme. Donc si vous arrivez à simuler une conversation, un visage, etc., ça veut dire que ce visage a été programmé initialement. C'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle l'ontologie digitale, qui est l'idée que l'univers est un programme, enfin qu'il est écrit comme un programme, comme l'ADN est un programme. Mais il n'y a pas ce cas limite où finalement on arrive à comprendre que quelque chose est rationnel et pour autant, il n'a pas de réalité. Il est intangible. Et d'ailleurs, Solaris communique d'une manière très très bizarre. Elle communique en faisant faire des rêves aux occupants de la station spatiale. Ou des rêves presque réalité. Et puis, il y a cet autre aspect de Solaris qui est fascinant, qui est la manière dont Tarkovsky mêle des grands plans, séquences très méditatives de la nature à l'intérieur d'un film de science-fiction, d'un film sur les ordinateurs. Ça me parle aussi beaucoup, parce que cette nature, en même temps, elle n'est pas du tout opposée à la science-fiction. Elle n'est pas du tout opposée. C'est une nature qui est presque mathématisée. Enfin, on a l'impression que ce que Tarkovsky nous explique, c'est que cette nature est elle-même une création de l'esprit, une création, un programme. Et que cette contemplation, du coup, est impure. Enfin, c'est pas... À un moment, il regarde un tableau de Bruegel en apesanteur dans l'espace. Alors, tout ce télescope, et puis Bach, qui est joué derrière, en fond. C'est absolu... Pour parler le mot de vertige, c'est un film qui me donne totalement le vertige. Le passé, le futur se confondent, l'informatique et la nature. Et c'est un sentiment que j'ai éprouvé viscéralement quand j'ai terminé Informatique Céleste. À contre toute attente, en même temps, plus j'allais vers l'informatique, plus je vais aller vers la nature. J'ai eu un sentiment du cosmos, en fait. J'ai eu un sentiment que l'univers était pas opposé à moi, mais que j'étais dedans, quoi.
C'est un sentiment, vous dites. Un sentiment, c'est une expérience.
C'est un sentiment très intense, et c'est pour ça que j'ai pris un chien. Après avoir écrit Informatique Céleste. Parce que je voulais que ce sentiment reste auprès de moi à travers... Je voulais être plus proche de la nature. Enfin, je voulais que la nature continue de me parler comme elle... Voilà, c'est vraiment... Je sais, j'ai conscience de dire des choses un peu bizarres, mais... je suis désolé, je m'excuse. Mais je me suis dit, mais en fait, la nature a inventé des ambassadeurs d'elle auprès de nous, pour nous rappeler à nous toujours qu'elle est vivante et qu'elle a une âme, et c'est les chiens. Les chiens sont les ambassadeurs de la nature auprès de nous. Et donc j'ai reçu un chien chez moi pour être cet ambassadeur, et il a très bien joué son rôle jusqu'au moment où il est décédé et où j'ai ressenti un grand grand vide et qui m'a donné envie d'écrire chien, en fait.
Quand vous parlez du programme de la nature, le programme de vous-même qui faites partie de la nature et dont le chien est l'ambassadeur, il y a bien quelqu'un qui a conçu ce programme ?
Non.
Non ?
Non, parce que ce qu'on arrive très bien à modéliser aussi aujourd'hui par ordinateur, c'est ce qu'on appelle des chaos auto-organisés. C'est Prigogine.
La nature s'est faite seule.
Oui, vraisemblablement, elle s'est même mieux faite seule qu'avec quelqu'un. Parce que ce qu'on arrive aussi à modéliser, c'est que s'il y avait un intelligent designer, elle marcherait moins bien que s'il n'y en avait pas. C'est la grande découverte de Darwin, en fait. C'est que du chaos, d'une infinité de petites différences, naissent des formes extrêmement sophistiquées, et peut-être même plus que si elles avaient dû être inventées par une seule personne. Alors, au prix d'un gâchis extraordinaire, hein, plein de formes sont non viables, mais dans l'ensemble, oui, il y a tout ce qu'on appelle la deuxième cybernétique, ouais, la thermodynamique du chaos, la théorie du chaos, l'auto-organisation à partir de bruit. Ça, c'est des choses absolument passionnantes que j'ai un petit peu traitées dans Informatique Céleste, mais beaucoup plus dans Cryptocommunisme.
Est-ce que vous vous dites de ce fait que les choses, l'existence a un sens, si elle est programmée ?
Ben, elle a un sens dans le sens où elle est du sens. C'est-à-dire qu'elle est du langage, elle est du signe, encore une fois. Alors, elle a probablement pas le sens qu'on voudrait lui donner comme on l'entend d'habitude. L'idée qu'on nous enverra un message, que notre vie est justifiée parce qu'on a été sympa. Non, c'est probablement pas ce sens-là, mais elle a du sens pour elle-même. C'est-à-dire que la nature n'est pas, la Terre n'est pas un caillou.
Il y a une vérité.
Ah, moi, je fais partie des pauvres gens qui pensent qu'il y a une vérité.
Bon, c'est un point commun entre vous et Lacan.
Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui manque. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins de la Philosophie, et Jacques Lacan, c'était en 1974, dans son bureau, il affirme, il assume dire la vérité, mais pas toute, Marc Alizart. Ce rapport à la vérité au réel vous parle ?
Ah, complètement, oui. C'est une des parties d'Informatique Céleste, en vérité. Parce que, en fait, Lacan parle il se réfère au théorème d'incomplétude de Gödel, qui est le grand théorème axial du début du XXe siècle, qui énonce qu'il n'existe pas de système logique complet. Il y a toujours de l'indécidable. D'un côté, c'est une limite absolue pour la pensée. On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, d'une certaine manière. Donc la vérité n'est pas toute. Elle est fondamentalement trouée, comme un beignet, en quelque sorte, en son centre, par cette incomplétude. Et en même temps, c'est pour ça qu'il y a du désir. C'est parce que la vérité n'est pas toute. Vous me demandez si l'univers a un sens. Oui, parce que précisément, il laisse place à du désir. Ce que je veux dire, c'est plutôt le contraire, c'est que si l'univers avait un sens, il laisserait pas la place au désir. Mais c'est parce que l'univers n'est pas tout. C'est parce que lui-même se construit à l'intérieur autour d'un vide. Comment est-ce qu'on qualifie ce vide? Est-ce que c'est le vide qui est entre les ellipses des planètes qui dessinent toutes des cercles, des ellipses en l'occurrence? Est-ce que c'est le vide quantique? Est-ce que c'est le vide du fait qu'une particule quantique ne peut jamais être déterminée dans sa vélocité en même temps que dans sa position? Enfin, il y a quelque chose dans la nature qui va toujours nous tirer vers une sorte de patou. Mais ce patou organise autour de lui la totalité du monde. Et c'est grâce à lui, effectivement, qu'on peut dire qu'il y a un monde.
Et il y a un lien entre philosophie et psychanalyse ?
Oui, Lacan l'a fait lui-même plusieurs fois. Je pense que le lien qu'il y a entre la philosophie et la psychanalyse, c'est que, en dehors de la rivalité, savoir qui est mieux que l'autre, qui a plus raison que l'autre, qui est plus dans la vérité que l'autre, qui est plus dans le patou que l'autre, c'est que je crois qu'in fine, psychanalyse et philosophie partagent l'idée que être et penser sont la même chose. C'est la plus vieille formule du monde, Parménide, enfin du monde de la philosophie. La première phrase de la philosophie, c'est être et penser sont le même. C'est la phrase de Hegel. C'est ce qui va fonder l'hégélianisme, c'est que donc le réel irrationnel, que les choses sont des syllogismes, que c'est ce qui fonde l'informationnalisme, c'est-à-dire qu'il y a des programmes dans la matière pense, et c'est ce qui fonde in fine la psychanalyse, c'est-à-dire qu'il y a des mots, il y a des symptômes. Il y a des mots qu'ils écrivent sur une peau qui pèle, sur un eczéma, sur notre corps est habité par un langage.
Donc l'inconscient est aussi une pensée pour vous ? Une modalité de la pensée ?
Oui, en tout cas c'est une modalité du langage. L'inconscient est structuré comme un langage et cet inconscient a des effets physiques. Et ça c'est la grande découverte quand même de la psychanalyse qui pour moi en fait à part entière une des formes les plus hautes de la philosophie.
Ah oui ?
Ah oui. Oui, enfin, moi, en tout cas, à titre personnel, la psychanalyse d'abord m'a beaucoup aidé, donc je voue à la psychanalyse une assez grande passion que j'ai jamais écrite formellement, mais qui m'accompagne à chaque pas. Je mets très très haut la psychanalyse.
Mais est-ce que la philosophie vous aide à vivre autant que la psychanalyse vous a aidé à vivre?
C'est une bonne question, oui. Oui, parce que, au fond, si j'avais pas ouvert cette porte, je crois que la psychanalyse m'a aidé à ouvrir la porte, qui m'a aidé à
ouvrir celle de la philosophie.
Et à rentrer en moi-même. Je crois pas que j'aurais pu le faire dans le vide non plus. Enfin, j'avais une question et cette question, elle appelait une réponse. Mais oui, même si cette réponse était que la réponse c'est pas tout.
Lemnis travaille deux jours. Il vit dans une chambre sombre, quand l'esprit perd sa fraîcheur, son mordant. Lemnis a coutume de prendre un court sommeil dans son fauteuil. Mais, nous dit-il, ce sommeil est si profond que l'esprit en sort tout neuf, à nouveau aiguisé.
C'est Bachelard qui raconte comment Leibniz travaille, deux jours, dans une pièce sombre, il fait une courte sieste et l'esprit en sort tout neuf, comme aiguisé, dit-il. Marc Alizard, vous nous avez fait part en début d'émission de votre décision, un jour, d'arrêter de travailler pour vous consacrer à l'écriture de livres philosophiques. À quoi ça ressemble une journée avec Marc Alizard qui écrit ses livres de philosophie? C'est vous écrivez toute la journée?
C'est très très chiant.
Bah, les résultats quand même ne le sont pas.
J'espère, mais ma vie est assez inintéressante. Enfin,
mais c'est un plaisir pour vous d'écrire.
Quand je trouve, oui. Quand je trouve pas, c'est une souffrance atroce qui me rend très très mauvaise humeur. Ma vie tourne essentiellement autour de mon chien, à vrai dire, qui me réveille, enfin, qui demande un certain nombre de soins au cours de la journée. Oui, j'écris le matin, et effectivement, je dirais pas comme Leibniz, ce serait prétentieux, mais c'est beaucoup en dormant.
Ouais.
Je crois beaucoup à la vertu du sommeil, mais on sait pourquoi, hein, d'ailleurs. Hein. C'est parce que le dans les moments de demi-sommeil, il y a des connexions neuronales qui sont libres, qui se font librement. J'ai reparlé de cette liberté, vous savez, de cet amour du concept qui est lié à finalement une capacité de laisser libre aussi le concept pour pouvoir ensuite l'enchaîner. Il faut d'abord le laisser libre et les connexions neuronales qui se produisent au moment du sommeil, début du sommeil sont propices à laisser libre des connexions qu'on forçait en fait. Ça on en revient à cette idée, quoi. Forcer la philosophie, c'est pas une bonne idée, ça marchera pas. Et quand je trouve pas, d'abord je deviens très irascible et je suis immanquablement pris par le sommeil, par une
nécessité
de dormir.
Quand vous trouvez pas quoi ? Un problème ?
Quand j'arrive pas à résoudre un problème encore une fois, moi je travaille j'essaye de résoudre des problèmes. Ma manière d'écrire, c'est souvent que j'essaye d'ouvrir une machine. J'ai comme un môme qui a une machine, hein, une petite voiture, et il l'ouvre pour savoir comment fonctionne le moteur. Et puis, si tant que je n'ai pas compris comment ça fonctionne, je suis mécontent. Donc, j'ai fait ça avec l'art contemporain, qui était une petite machine. J'ai ouvert l'art contemporain pour savoir comment ça marchait. J'ai voulu faire la même chose avec un ordinateur, parce que j'en ressentais le besoin. J'ai ouvert un ordinateur pour comprendre comment ça marchait.
Vous n'avez pas ouvert votre chien, rassurez-moi.
Non, le pauvre. Et non, le chien, c'est justement, c'est ce que je disais, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on est capable de s'ouvrir à d'autres choses, quoi, que cette manie, en fait, cette obsession maladive de
vouloir ouvrir les choses. Vous voulez comprendre, en fait. Vous voulez comprendre.
Oui. Je veux comprendre, et quand je comprends pas, je dors.
Si tu veux participer au cours, tu dois le faire en tant que chien. Quoi?
Bah, je suis un homme.
T'en es vraiment sûr? Va la chercher. Va. Allez, Jacques, attaque.
Non.
Attaque, Jacques.
Non.
Allez, attaque.
Non.
Attaque-moi, je veux.
Non.
Attaque-moi.
Non.
Allez, Jacques, attaque.
Non, vraiment, je préférerais pas.
J'imagine que vous avez vu ce film, Marc Lézard, Chien, de Samuel Benchetrit avec Vincent Macaigne.
J'adore
Macaigne.
Ce film.
Pourquoi ?
J'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un film merveilleux, c'est un film très court, très, très étrange dans sa narration. Quand on le regarde, on se demande mais qu'est-ce qui nous emmène ? Et quand on sort, on s'aperçoit qu'il est structuré comme un rêve, en fait. Il a cette même bizarrerie, c'est comme « Ah, oh, j'ai rêvé que j'étais un chien ». Mais j'étais pas un chien, enfin j'avais encore ma peau, mon corps d'humain, mais j'étais un chien, j'étais à genoux, je mangeais des croquettes chez un maître chien, et c'est extrêmement troublant, quoi. Du coup, c'est ce genre de film qu'on peut s'approprier comme si on avait fait loi soi-même, enfin comme si on avait rêvé soi-même. Et puis c'est un film qui sur la chienneté, je trouve, est extrêmement profond, extrêmement juste. D'abord, c'est un film sur la sainteté des chiens, d'une certaine manière. C'est dans Vincent Macaigne, c'est un saint dans ce film. Il veut pas faire de mal.
Donc Vincent Macaigne joue le chien.
Oui, et d'abord il joue le mari de Vanessa Paradis qui le déteste, qui lui dit qu'il est nul, qu'il faut qu'il parte, et lui il l'aime tellement qu'il dit oui, va évidemment puisqu'elle le dit, et puis son fils l'escroque, il le sait très bien, mais il veut bien être escroqué parce que c'est son fils et qu'il l'aime. Et en fait, devenir un chien pour lui, ça va être la suite de cette expérience qui consiste à devenir un saint. Moi je suis convaincu que les chiens ont une forme de sainteté, en tout cas ils incarnent des vertus chrétiennes évidentes, la fidélité, la patience, l'abnégation. Et puis il y a beaucoup de saints qui se sont associés à des chiens, à Saint Dominique, le Dominicanis, les chiens de Dieu, les dominicains. Et alors aussi, à l'intérieur de cette histoire de sainteté, il y a une histoire de renaissance, enfin d'initiation, parce que là, le passage qu'on a entendu, je crois que c'est le moment où il va mordre à la gorge son dresseur, et c'était l'affiche du film aussi, il était plein de sang. Et c'était une affiche bizarre d'ailleurs, mais elle est extrêmement juste, c'est le point de névralgique du film. Et dans mon livre sur les chiens, il y a aussi le chapitre névralgique, c'est sur le sang, c'est sur le fait que le chien mord, hein, évidemment aussi, c'est un saint qui mord. Et que le sang versé par le chien, on va le retrouver chez Dracula, on va le retrouver dans le Petit Chaperon Rouge, on va le retrouver dans tous les mythes du sang, les mythes primitifs autour du sang. C'était pour moi un motif extrêmement important. Et donc il traverse le miroir comme ça en ayant bu ce sang et il devient complètement un chien tout en habitant un monde de violence. Et il a atteint en fait une sorte de sagesse absolue, quoi.
Vous voudriez être un chien ?
Je me suis parfois posé la question.
Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous nous avez expliqué l'importance d'Informatique Céleste, qui est vraiment le livre qui a fait basculer Votre carrière, votre vie, votre écriture. Chien, nous venons d'en parler, et puis vous avez expliqué comment vous êtes passé de l'un à l'autre. Comment êtes-vous passé des chiens à ceci ?
Pour ses détracteurs, le Bitcoin est clairement en train de dévisser. Perdre 30% de sa valeur en quelques heures est certes impressionnant, peut-être inquiétant, mais cette crypto-monnaie est par nature virtuelle. Elle ne repose donc sur aucun indicateur économique autre que l'offre et la demande. Et le Bitcoin est donc, de par sa conception, condamné à monter et à descendre en fonction des vendeurs et des acheteurs. En 2011, le Bitcoin passait de 1 à 30 dollars pour redescendre à 3. Monter et à descendre.
Votre dernier livre, Marc Alizart, s'appelle Crypto-communisme. Il est toujours au PUF, toujours dans la collection Perspectives Critiques. Vous partagez avec le chien cette qualité qu'est la fidélité, visiblement, parce que les quatre ont été publiés au même endroit. Et il parle notamment du Bitcoin. Qu'est-ce que c'est que le Bitcoin ?
Ah, c'est une monnaie numérique. C'est la première monnaie numérique. Mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est le premier fichier informatique non duplicable. Vous savez, quand vous postez une photo sur Internet, tout le monde peut la copier. Quand vous la donnez, en fait, vous la donnez pas, vous la gardez et les copiez. Bitcoin, c'est la première fois qu'on arrive à créer un fichier informatique. Quand vous le donnez, vous le donnez. Et donc, c'est pour ça qu'il a une rareté et la capacité d'être une monnaie. Comment on passe de chien à Bitcoin ? Donc, j'avais commencé à écrire crypto-communisme après Informatique Céleste. Chien, c'est un peu intercalé dans ce travail-là. C'est la rencontre de mes deux obsessions de l'époque. C'est-à-dire que d'abord l'informatique. C'est-à-dire quand j'avais écrit Informatique Céleste, je me suis dit mais c'est quoi l'informatique terrestre ? Alors comment est-ce que je me disais l'informatique céleste c'est censé changer nos vies, nous faire voir la lumière. Enfin, dans la vie quotidienne, l'informatique est devenue un enfer. Les réseaux sociaux, le numérique, le big data, la surveillance. Il y avait une dissonance en fait qu'il fallait régler déjà. Et puis je découvre Bitcoin qui se propose de régler cette dissonance et qui me paraît avoir d'emblée une sonorité que je connais, qui est la sonorité protestante. C'est-à-dire que les bitcoiners disent qu'il faut se passer des banquiers comme j'avais lu que Luther voulait se passer des prêtres. Et je trouvais ça absolument fascinant en fait que quelque chose comme la réforme continue encore de vivre aujourd'hui dans cette technologie. Et alors, il se trouve que ça a même un petit lien avec chien, parce que Bitcoin a une autre particularité, c'est que c'est un système auto-immunitaire en fait. C'est un système qui a une sorte de peau autour de lui, qui lui permet d'être inviolable, de pas hacker Bitcoin en fait. Et c'était un des grands sujets de chiens aussi. Je suis convaincu que les chiens sont des membranes thermodynamiques qui permettent à des systèmes de créer un intérieur et un extérieur. Et cette question immunitaire, cette question est au cœur de Bitcoin, quoi, qui est un objet. Enfin, pour moi, c'est fantastique, quoi, de pouvoir vivre à l'époque de Bitcoin, je trouve, d'une invention aussi extraordinaire, aussi brillante.
Comment vous expliquez qu'elle ne prenne pas autant que ses défenseurs le souhaiteraient ?
Ah mais elle prend d'une manière absolument phénoménale. C'est une, d'abord une aventure économique et industrielle sans précédent dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en 10 ans, Bitcoin est passé de 0,001 centime à presque 20 000 euros après en redescendre. Enfin, on s'en fiche d'une certaine manière, mais ça marche. C'est-à-dire que les gens s'en servent. C'est la première fois qu'ils se servent d'une autre monnaie que la monnaie qui leur est servie par l'État. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une monnaie indépendante, décentralisée, privée et en même temps publique se circule. Enfin, c'est sans précédent. Et ça va avoir des effets politiques absolument sans précédent. C'est une révolution d'une magnitude qui n'a effectivement comme précédent probablement que la réforme ou la révolution française.
Vous pensez qu'on en est au début ?
Ah, mais si vous voulez, c'est Internet avant les modems qui faisaient un bruit de crécelle. C'est-à-dire, c'est Internet à l'époque où, pour utiliser Internet, il fallait avoir un PhD de sciences informatiques pour envoyer un email. Pour envoyer un email en 1987, il fallait faire un nombre de manipulations absolument hallucinantes. On a à peu près là avec Bitcoin. Et encore, ça va beaucoup plus vite. Non, je crois qu'on peine à prendre la mesure de ce que ça va être. C'est colossal.
Ça va remplacer l'argent tel qu'on connaît.
Mais pas seulement l'argent. Ça peut remplacer potentiellement les États, les rapports sociaux, et ça peut même remplacer des formes de vie.
Puisque, ça, c'est terrifiant.
Puisque c'est, mais c'est qu'est-ce que je peux dire ? L'univers est terrifiant, quoi. C'est-à-dire que le monde est ce chaos auto-organisé qui se perpétue à travers nous et qui se perpétuera peut-être sans nous, sous d'autres formes de vie conscientes, mais qui ont vocation à exister, qui appellent à venir à l'existence. Moi, ça me dérange pas du tout.
Merci beaucoup, Marc Alizard, d'être venu ce matin nous parler de votre travail et de cet univers dans lequel vous vivez. Je ne sais pas si on vit dans le même, mais le vôtre fait très envie, en tout cas. Votre dernier livre, vous venez d'en dire deux mots. Ça donne très envie de s'y plonger davantage. Crypto-communisme, on le trouve aux éditions PUF. Le monde que vous décrivez ressemble un peu à celui de Kraftwerk. En tout cas, on se quitte avec cette chanson « We are the robots ». France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, hop, au saut du lit, il y a un peu de bodybuilding.
Une philosophie du bodybuilding, ou plus largement, une philosophie du muscle est-elle possible ? C'est l'idée qui peut venir en lisant ce roman biographique de Nicolas Chemla, Monsieur Amérique. Alors, Monsieur Amérique, c'est Mike Menzer. Je ne sais pas si vous le connaissez, pour ma part, non. Mais j'ai donc appris que Mike Menzer a été l'un des plus grands bodybuilders américains et aussi l'un de ses théoriciens. Né en 1951 et mort presque 50 ans plus tard, en 2001, il a été notamment connu entre 1960 et 85 comme l'incarnation de l'homme idéal. Entendez par idéal l'alliance de formes corporelles parfaites avec l'idée d'une surhumanité. Entendez, autrement dit, le bodybuilding comme lieu d'émergence de l'homme idéal. Drôle d'idéal, mais après tout, pourquoi pas ? Les antiques voyaient bien la vertu comme la maîtrise du corps et de ses passions, et les modernes ont quant à eux lancé le culte encore puissant voué à l'apparence et à la performance. Alors pourquoi ? La culture du muscle, le bodybuilding, loin d'être ringard, ne serait-elle donc pas le lieu d'émergence de l'homme idéal aujourd'hui ? « Le bodybuilding, que l'on connaît aussi sous le nom de culturisme, est la discipline qui consiste à développer sa masse musculaire. Mais pas dans un but seulement athlétique, sportif ou technique, mais aussi esthétique. Les bodybuilders, en championnat, sont ainsi invités à enchaîner toute une série de poses pour montrer la perfection de leurs muscles, à déplier toute une chorégraphie pour révéler comment chacun de ces muscles a été parfaitement entraîné pour atteindre sa finalité. Mais quelle est la finalité d'un muscle? À quoi nous sert-il? Assez banalement, on peut définir un muscle comme un ensemble de tissus mous, constitué également de sang et de nerfs, dont la fonction en se contractant est de produire de la force et du mouvement. Mais dans le cas du bodybuilding, à quoi servent les muscles si l'on ne fait que les montrer sans produire de mouvement? À quoi sert donc cette pure culture de la force?
Avec près de 200 athlètes inscrits aux demi-finales nord des championnats de France de la fédération IFBB qui se sont déroulés dimanche à Sportica, la journée promettait d'être active et bien remplie. Le jury était à pied d'œuvre pour départager et noter les candidats qui visent la finale nationale dans 2 semaines. Si le spectacle de l'épreuve est dans la salle, sur scène, les coulisses sont un bivouac où chacun a pris sa place pour se préparer. C'est ici que les compétiteurs se mettent en tenue légère, prennent un peu de couleur grossièrement, se font repeindre à l'auto-bronzant qu'on appelle du tan. Cela permet, sous les projecteurs, de faire mieux ressortir les formes sculpturales des candidats. Et pour donner du tonus à leur masse musculaire, les athlètes s'échauffent, chaque détail compte.
Entraînement, déprime, gloire, échec, rivalité avec Schwarzenegger, c'est cette vie de culture du muscle qui est racontée dans cette biographie du bodybuilder Mike Manzer. Une vie où chaque détail compte, pour gonfler son corps, pour structurer son physique, pour hypertrophier sa force, mais sans pour autant s'en servir. C'est là, en effet, le paradoxe du bodybuilding, il a recours aux muscles sans pour autant les utiliser, tout en les dépouillant de leurs fonctions. Paradoxal, mais c'est pourtant là que le muscle, avec le bodybuilding, apparaît ainsi dans toute sa pureté pour lui-même. Qu'est-ce qu'un muscle quand il n'est pas utilisé? Certains philosophes, comme Aristote, y ont vu l'organe de la puissance, de l'action et par suite de la volonté, celle-ci étant même comparée à un muscle que l'on doit exercer. D'autres en ont fait le signe de la virilité, c'est tout l'état d'esprit antique que l'on peut aussi retrouver chez un Nietzsche. Mais avec Mike Manzer, le muscle cultivé pour lui-même devient tout cela en plus fort et en plus tragique. Le lieu de l'effort, de la douleur et d'un certain rapport à soi toujours en tension.
Yeah, man, the boys are here, the girls are here, and the muscle men are here.
Peut-on recréer l'humanité? Comment entraîner son corps revient-il à explorer concrètement la réalité? Comment peut-on prendre plaisir à la douleur? Ce sont quelques-unes des questions que soulève la vie de Mike Manzer et qu'il a soulevé lui-même à travers ses propres textes. On y croise ainsi le surhomme de Nietzsche, l'objectivisme d'Ayn Rand et le pragmatisme de William James, mais on y croise aussi cette idée que tout idéal humain repose sur une construction, une exploration, un exercice, une culture, et du culturisme peut-être, de soi pour soi. Mais que cet idéal n'empêche pas la fragilité, au contraire, il repose sur elle. Comment être le meilleur avec et grâce à ses faiblesses, et même jusqu'à l'échec? Et c'est sûrement la question centrale posée par ce bodybuilder Mike Manzer.
Passionnant, Géraldine, et je vois que vous avez mis en pratique ce livre.
Ah ben, je fais du bodybuilding tous les matins.
Ça se voit, c'est flagrant. Ce livre
s'appelle Monsieur Amérique, c'est de Nicolas Chemla et c'est aux éditions Séguier.
Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé à préparer cette émission. Isis Jourda, Géraldine Bosna-Savoie, Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette émission. C'était Jacques Azubert à la prise de son. Aujourd'hui, que des bodybuildés, évidemment. On se retrouve lundi pour une nouvelle série d'émissions autour des pensées à moi-même de Marc Aurèle. Et on vous parlera de Marc Aurèle et du stoïcisme la semaine prochaine. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve lundi avec bonheur. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.